de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Xi Jinping demande aux responsables chinois de prendre de nouvelles mesures contre le coronavirus. Japon exigera que les visiteurs chinois soient testés pour la COVID-19. Gouvernement encourage l'accélération des installations de traitement des déchets en énergie. Ministre de l'Industrie vise une croissance industrielle pouvant atteindre 5,4% en 2023. Consulat général d'Indonésie à Osaka encourage les hommes d'affaires japonais à investir en Indonésie. PME de sauce soja sucrée ont réussi à l'exporter pour la première fois à Jeddah. Le ministre indonésien de questions des sports et des jeunes met l'accent sur 4 succès de la Coupe du Monde U20 2023. Mon cher Joëtard, voici la nouvelle en complet. Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a exhorté les responsables à prendre des nouvelles mesures pour protéger la vie des gens au milieu des cas fous de coronavirus ou de COVID-19. Il s'agit du premier discours de Xi Jinping sur la COVID depuis que Pékin a assoupli sa politique sur les coronavirus ce mois-ci. Rapporté par l'AFP mardi 27 décembre 2022, la Chine connut le plus grand pic d'infection au monde après la levée soudaine des restrictions économiques préjudiciables. Des études estiment qu'environ 1 million de personnes pourraient mourir au cours des prochains mois en raison de la flambée des cas de coronavirus. De plus, les citoyens ont commencé à se battre pour la drogue. Pendant ce temps, les services médicaux d'urgence sont bondés de patients âgés non vaccinés. Le Japon exigera que les visiteurs de Chine continentale subissent un test COVID-19 une fois arrivés au Japon. Selon le premier ministre japonais Kishida, cette obligation prendra effet à partir de vendredi 30 décembre, ce dont les résultats de tests sont positifs pour le coronavirus seront mis en quarantaine pendant 7 jours. Le durcissement des contrôles aux frontières pour les visiteurs en provenance de Chine intervient à un moment où le nombre de nouveaux cas de COVID-19 au Japon augmente rapidement. Kishida a également déclaré que les projets d'ajout de vols vers et depuis la Chine seraient limités. Le gouvernement indonésien continue d'encourager l'accélération des installations d'utilisation des déchets en énergie avec une technologie respectueuse de l'environnement. Le directeur de la gestion des déchets au ministère de l'Environnement et de Forêt, KLHK, Nofrizal Tahar, a déclaré mardi que son parti, en collaboration avec divers ministères et agences gouvernementales, continuait de fournir une assistance et une évaluation intensive, en particulier pour les 12 villes stipulées dans le règlement présidentiel numéro 11-35 de 2018. Le ministère de l'Environnement et des Forêts ainsi que divers ministères, dont le ministère indonésien de coordination des affaires maritimes et de l'investissement, le ministère indonésien de coordination des affaires économiques, BAPNAS, le ministère indonésien des Finances, le ministère de l'Énergie et des Ressources minérales et diverses autres institutions continuent également de coordonner et trouver des solutions pour accélérer le développement de la transformation des déchets en énergie électrique. Le gouvernement indonésien continue d'aider les gouvernements locaux et d'autres parties à accélérer la transformation des déchets en énergie électrique. Le ministre indonésien de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, vise une croissance industrielle de 5,1% à 5,4% en 2023, dans l'espoir que les conditions mondiales s'améliorent. Le ministre de l'Industrie de Jakarta, mardi 27 décembre, estime que l'industrie manufacturière augmentera de 5,01% en 2022 et de 5,1% à 5,4% en 2023. Dans cette optique, la valeur des exportations de l'industrie manufacturière est estimée à de l'ordre de 210,38 milliards de dollars américains en 2022 et de 225 milliards de dollars américains à 245 milliards de dollars américains en 2023. Quant à la valeur de l'investissement, le ministre indonésien de l'Industrie estime qu'elle atteindra 439 billions de roupies en 2022 et 450 billions à 470 billions de roupies en 2023. Parallèlement, l'emploi devrait atteindre 19,2 millions de travailleurs à 20,2 millions de travailleurs en 2023. Le consulat général de la République d'Indonésie et le Centre indonésien de promotion du commerce ITPC d'Osaka encourage les entrepreneurs de la préfecture de Kagawa au Japon à investir en Indonésie. L'invitation a été transmise en présence du gouverneur Toyohito Ikeda et de son équipe, de membres du Parlement et d'un certain nombre d'hommes d'affaires de la préfecture de Kagawa qui sont membres de l'Association d'amitié indonésienne et Kagawa Asijuchu Kagawa. La consul générale d'Indonésie à Osaka, Diana Sutikno, a déclaré mardi dans une déclaration écrite que l'Indonésie et le Japon sont deux pays partenaires stratégiques et commémoreront les 65e relations diplomatiques en 2023. Et soutenue par les dirigeants indonésiens en tant que président de l'ASEAN et le Japon en tant que président du G7 en 2023. Il faut continuer à renforcer la coopération pour la prospérité des peuples des deux pays. Pour cette raison, selon Diana, les entreprises et entrepreneurs de la préfecture de Kagawa, notamment dans les domaines des infrastructures, de la santé et des produits agricoles, sont encouragés à étendre leurs investissements en Indonésie. Sauce de soja sucrée, les micro, petites et moyennes entreprises appartenant à CVIKPEXI Agro-Industrie SA ont réussi à exporter des produits de sauce de soja sucrée à Jeddah, en Arabie Saoudite. La première exportation a été réalisée après avoir participé au programme de coaching pour les nouveaux exportateurs, CPNE, organisé par l'Agence indonésienne des financements des exportations, LPEI. Cette exportation initiale était un conteneur d'un poids d'environ 20 tonnes ou d'une valeur de 37 000 dollars américains. Le chef de la division des services des conseils de LPEI, Gérald Grisanto, a déclaré que cette libération des exportations était une manifestation des efforts de LPEI pour pousser les produits indonésiens locaux à devenir mondiaux. Cette première activité d'exportation, a poursuivi Gérald, devrait être une motivation et une inspiration pour d'autres acteurs commerciaux à exporter. Le ministre de la Jeunesse et des Sports de la République d'Indonésie, Menpora Zainuddin Amali, a souligné les quatre succès de l'Indonésie dans l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA U20, qui aura lieu en mai jusqu'à juin 2023. Citant le site officiel du ministère de la Jeunesse et des Sports, mardi 27 décembre, lors d'une réunion de coordination, Zainuddin Amali a déclaré que la détermination de l'Indonésie est de réussir à organiser et à obtenir des succès administratifs et des succès économiques. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a rappelé que les quatre succès pouvaient être obtenus par la suite sans être laissés par des problèmes juridiques. Le ministre a demandé à chaque région d'être pleinement préparée à la mise en œuvre afin qu'elle puisse avoir un impact positif sur l'économie de la région concernée. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Accueil diplomatique, intitulée Ambassade d'Indonésie à Doha, a organisé une soirée de remerciements pour les volontaires indonésiens de la Coupe du Monde. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers auditeurs, l'ambassade d'Indonésie à Doha a organisé vendredi 23 décembre une soirée d'appréciation pour les volontaires pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar d'Indonésie. L'ambassadeur d'Indonésie au Qatar, Ridwan Hassan,
les a appelés ambassadeurs de la nation. L'ambassadeur Ridwan à Wisma de l'ambassade d'Indonésie à Doha, dans un communiqué samedi 24 décembre, a souligné qu'il s'agissait d'ambassadeurs de la nation qui se tenaient face à des partisans de nombreux pays. L'ambassade d'Indonésie à Doha a noté qu'il y avait au moins 90 citoyens indonésiens impliqués en tant que bénévoles pour la Coupe du Monde 2020. La majorité sont des citoyens de la diaspora indonésienne au Qatar, mais pas quelques citoyens indonésiens qui volent délibérément pour devenir les bénévoles pour la Coupe du Monde 2020, à la fois d'Indonésie et d'autres pays pendant la Coupe du Monde 2020. Des bénévoles d'Indonésie effectuent diverses tâches, allant de la gestion du centre des médias, des agences d'information au stade, des guides pour les spectateurs handicapés, jusqu'à ce que les gardiens servent de guides le long du parcours des supporters vers le stade ou des lieux bondés tels que le FIFA Fan Festival. L'un des résidents ou citoyens de la diaspora qui s'est porté bénévolement, Ahmad Charnoubi Fatah, a déclaré, même s'il devait voyager environ 2,5 heures par jour, il appréciait toujours cette activité de bénévole. En plus d'être par le biais de bénévoles, les citoyens de la diaspora indonésienne au Qatar étaient également fortement impliqués dans l'organisation de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le directeur de l'information des affaires sociales et culturelles de l'ambassade d'Indonésie, Doha, Ali Murtado, a déclaré qu'il y avait des dizaines d'enfants indonésiens qui ont été impliqués comme équipage de balle, porte de drapeau ou accompagnateur de joueurs lors de la Coupe du Monde d'hier. En outre, Ali Murtado a déclaré que l'Indonésie a également participé à plusieurs spectacles d'art culturel lors de la Coupe du Monde de Qatar 2020 à l'occasion du gouvernement local, que ce soit sous la forme de spectacles d'enclung, d'expositions de batiques, de festivals de la diaspora, ainsi que d'activités artistiques individuelles. Pour cette participation, l'ambassade d'Indonésie à Doha a également remercié les studios d'art et les personnalités de l'art indonésien au Qatar qui ont activement promu l'Indonésie lors de la Coupe du Monde 2020. Bon, chargé d'art, c'est tout, l'accueil diplomatique.
Chers auditeurs, bonsoir, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 28 décembre 1908, tremblement de terre de Messine en Italie. Un tremblement de terre a secoué le détroit de Messine dans le sud de l'Italie et a rasé la ville de Messine en Sicile et la région en Calabre le 28 décembre 1908. Le tremblement de terre de Messine d'une magnitude de 7,1 s'est produit vers 5h20 heure locale. Par conséquent, les personnes décédées à cause de ces événements, la plupart étaient à la maison ou dormaient. L'épicentre du tremblement de terre était sous le détroit de Messine qui sépare l'île de Sicile de la province de Calabria. Le tremblement de terre a généré une vague de tsunami atteignant 13 mètres de haut. Ce tremblement de terre et ce tsunami ont tué 75 000 à 80 000 personnes. Ce fut le tremblement de terre le plus grave et le plus destructeur de l'histoire européenne. Notre information est sur le décès de Saman Houdi, héros indonésien du mouvement national, le 28 décembre 1956. Saman Houdi, ou souvent appelé Kiai Haji Saman Houdi, est le fondateur de Sarekat Dagang Islam, une organisation d'entrepreneurs de batik à Surakarta. Dans le monde du commerce, Saman Houdi a ressenti la différence de traitement par les dirigeants néerlandais des Indes orientales entre les commerçants indigènes à prédominance musulmane et les commerçants chinois. Par conséquent, Saman Houdi pensait que les commerçants autochtones devaient avoir leur propre organisation pour défendre leurs intérêts. En 1905, il fonda le Sarekat Dagang Islam pour réaliser ses idéaux. Le 28 décembre 1956, Saman Houdi décède à Klaten dans le centre de Java. Saman Houdi a reçu le titre de héros du mouvement national en 1961 par le gouvernement indonésien. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 20 décembre 2014, l'accident d'avion Air Asia. L'Airbus A320 d'Air Asia s'est écrasé dans la mer de Java près du détroit de Karimata lorsqu'il volait de Surabaya à Singapour le 20 décembre 2014. Le 30 décembre 2014, l'épave de cet avion a été retrouvée flottant dans la mer de Java. 155 passagers et 7 membres d'équipage de l'avion sont morts. Leurs corps ont été retrouvés en même temps que la découverte de l'épave de l'avion. La cause de l'accident était des dommages à la queue de l'avion et une mauvaise communication entre le pilote et le copilote. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir, voici mon Indonésie et pour le titre, le gouvernement encourage l'accélération des installations de valorisation énergétique des déchets. Le gouvernement indonésien continue d'encourager intensivement l'accélération des installations de valorisation énergétique des déchets grâce à une technologie respectueuse de l'environnement, en particulier dans les 12 villes répertoriées dans le règlement présidentiel numéro 35 de 2018. Le directeur de la gestion des déchets du ministère de l'Environnement et des Forêts, Nofrizal Tahar, mardi 27 décembre à Jakarta, lorsqu'il a été contacté par Antara, a déclaré que sa partie ainsi que divers ministères et agences gouvernementales continuaient à fournir une assistance et une évaluation intensive, en particulier pour les 12 villes fixées dans le décret présidentiel numéro 35 de 2018. Dans le règlement présidentiel numéro 35 de 2018 concernant l'accélération du développement des installations de traitement des déchets en énergie électrique, basée sur une technologie respectueuse de l'environnement, 12 villes ont été déterminées pour devenir le développement du traitement des déchets en énergie électrique, PSEL, à savoir DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Sud, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang et Manado. L'un des PSEL actifs se trouve à Surabaya qui a été inauguré par le président Joko Widodo en 2021. Le ministère de l'Environnement et des Forêts ainsi que divers ministères, y compris le ministère de coordination des affaires maritimes et de l'environnement, le ministère de coordination des affaires économiques, le comité de planification pour le développement national, BAPENAS, le ministère des Finances, le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales et diverses autres institutions continuent également de se coordonner pour trouver des solutions pour accélérer le développement de PSEL. Selon Nofrizal, le gouvernement central continue d'aider les gouvernements locaux et d'autres parties à accélérer le PSEL. Auparavant, le président Joko Widodo, lors de la réunion de travail national de l'Agence de gestion des fonds pour l'environnement, BPDLH, mercredi 21 décembre à Jakarta, a demandé à l'Agence de prioriser les fonds pour la gestion des déchets et la réhabilitation des mangroves. En particulier, le président a également fait allusion au projet de gestion des déchets de l'installation de traitement intermédiaire de Sunter, ITF, à Jakarta, qui n'est pas encore achevé. Lorsque ITF de Sunter sera opérationnel, on estime qu'il pourra traiter 720 000 tonnes de déchets par an et générer 35 MW d'électricité chaque jour. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français. Thank you. Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Changez de tard, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Chers auditeurs, voyager tout en cherchant des sciences peut être un moyen de trouver une nouvelle atmosphère pour vous et votre famille. Ce serait bien si nous allions dans un musée qui collectionne divers animaux, comme musée de zoologie. Le musée zoologique est un musée situé à Bogor qui possède des collections liées au monde animal, telles que divers spécimens préservés et fossiles d'animaux. Ce musée est divisé en deux, dont l'un est ouvert tous les jours au public, qui contient une salle d'exposition située sur la rue Insinyur Haji Juanda, numéro 9 Bogor. Notre musée fonctionne comme un centre de collecte et n'est ouvert au public qu'une fois par an en octobre. Ce musée est situé au centre des sciences de Cibinong, précisément sur l'autoroute Jakarta-Bogor, kilomètre 46, Cibinong-Bogor. Auparavant, le musée zoologique de Bogor était un laboratoire zoologique sous le nom de Lanbo Zoologis Laboratorium, fondé le 23 août 1994, et une idée originale de J.C. Koningsberger, un botaniste néerlandais. Ce laboratoire a été créé en tant qu'installation de recherche liée à l'agriculture et à la zoologie. En 1906, le nom a changé au musée zoologique et au Weekblad. En 1910, puis à nouveau au musée zoologique et laboratoire. Le musée compte 24 salles de collection et n'a été occupé qu'en 1997, sa construction étant financée par des subventions de la Banque mondiale et du Japon. La collection du musée de zoologie située dans le bâtiment Widya Satwa Loka au centre scientifique de Cibinong couvre 3,5% du nombre total d'espèces de faune trouvées en Indonésie et de la diversité de la faune en Indonésie. Seulement 0,05% des échantillons d'animaux ou spécimens appartiennent au département de zoologie. Centre de recherche biologique, Institut indonésien de sciences de la recherche. Chers auditeurs, ce musée stocke des centaines de millions de spécimens de dizaines de milliers d'espèces. Cependant, la collection est encore limitée aux animaux et invertébrés terrestres et d'eau douce. La collection ici est estimée à seulement environ 10% de la biodiversité de l'Indonésie. Si vous voulez en savoir plus sur l'existence des animaux sur Terre et leur histoire, assurez-vous que le musée zoologique de Bogor est l'une de vos destinations touristiques cette fois. Chers auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci de votre attention. À demain.
Telah menutup pintu hatiku untukmu sejak ku temukan dalam hatiku tiada kamu. Kemana kamu pergi ku tak tahu. Saat kau pulang kembali pintu ku kunci. Jangan menunggu depan kemana kamu
Georges Littard, c'était la belle chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est « Kita bertemu Senin pagi ».« Kita bertemu Senin pagi ». Nous nous rencontrons lundi matin. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien. Kita bertemu Senin pagi. Kita bertemu Senin pagi. Nous nous rencontrons lundi matin. Cette conversation se déroule entre Dev Singh, un touriste indien, et l'ami de Dev qui travaille comme maître de conférence à l'université Samratulangi. Mona et Dev appellent au sujet de leur intention de se revoir à Manado lundi matin. Bonne écoute.
Kita bertemu lagi Senin pagi ya.
Baik, sampai jumpa Mona.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Intitulé « Kita bertemu Senin pagi ».« Kita bertemu Senin pagi ». Nous nous rencontrons lundi matin. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois et puis vous pouvez me répéter. Kita, kita, nous ou on. Bertemu lagi, se rencontre, nous rencontrons. Senin pagi, lundi matin. Kita bertemu lagi Senin pagi ya. Nous rencontrons lundi matin. Hein? On se rencontre lundi matin. Hein? Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu la phrase « Kita bertemu lagi Senin pagi ya ». Kita bertemu lagi Senin pagi ya. En français, nous nous rencontrons lundi matin. Dans ce discours, il y a l'expression « Senin pagi ». Senin pagi, lundi matin. Cette expression est utilisée pour exprimer des informations temporelles. Dans ce discours, l'expression « senin pagi, lundi matin » est utilisée pour indiquer l'heure à laquelle Dev et Mona se référent, c'est-à-dire « senin pagi, lundi matin ». Sur jamais pour préciser l'heure lors de la prise de rendez-vous, vous pouvez utiliser une expression du jour suivie d'une heure indéterminée comme pagi, pagi, matin, siang, siang, midi, soirée, soirée, après-midi ou malam, malam, soir. Donc, chers auditeurs, maintenant écoutons des exemples d'utilisation à l'expression du temps dans les énoncés suivants. Selasa siang. Selasa siang, mardi après-midi. Saya akan pulang Selasa pagi. Saya akan pulang Selasa pagi. Je serai à la maison mardi matin. Rabu malam, mercredi soir. Kita akan bertemu Rabu sore. Kita akan bertemu Rabu sore. Nous nous retrouverons mercredi après-midi. Chers amis, dans la culture indonésienne, pour exprimer une information sur l'heure de la nuit, le mot malam, malam, soir, peut être utilisé devant le nom du jour. Par exemple, malam minggu, samedi soir, pour dire sabtu malam, samedi soir. Donc, si vous voulez dire minggu malam, dimanche soir, vous pouvez dire malam Senin, malam Senin. c'est dimanche soir. Sergent, oui, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Kita bertemu lagi Senin pagi ya.
Baik, sampai jumpa Mona.
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition L'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir. Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
terdiam, tersentuh karena satu senyuman. Tak mau ku pergi, melayang hati di
c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Chers auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi Audrey. Ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson de Sulawesi du Sud intitulée Anna Kukang. La chanson Anna Kukang raconte la tristesse d'un enfant abandonné par sa famille. Quand il était encore enfant, l'enfant était abandonné par sa mère jusqu'à ce qu'il soit finalement récupéré par quelqu'un d'autre. L'enfant se sent aussi triste de devoir vivre seul. Bon, chers auditeurs, voici Aulia Anas va chanter une chanson de Sulawesi du Sud intitulée Anna Kukang. Bonne écoute. Thank you. Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.